Vous écoutez On lit pour vous.
Des réseaux devenus asociaux, un dossier de Léa Carrier, paru le 20 octobre 2024 dans la presse. Les réseaux sociaux sont-ils encore sociaux? Entre la publicité, les faux comptes gérés par des robots et les images générées par l'intelligence artificielle, les rapports humains semblent de moins en moins au cœur des grandes plateformes comme Facebook. De moins en moins humains. Sur la photo, un vieux couple prend la pose devant l'entrée d'une maison coquette, main dans la main. Il a 105 ans, elle, 103 ans, ils sont ensemble depuis 80 ans, annonce la publication, aimée près d'un demi-million de fois sur Facebook. Félicitations, quel bel exemple, s'émerveillent des milliers d'utilisateurs dans les commentaires. Ça aurait été une belle histoire d'amour si elle avait été vraie. Générée par intelligence artificielle, l'image a été relayée par des dizaines de pages sur Facebook dans les derniers mois. La dystopie va même plus loin. Faites un tour dans les commentaires de publications générées par intelligence artificielle. Ils regorgent de réponses automatisées, publiées par de faux profils. Des robots interagissant avec d'autres robots, générant un engagement complètement artificiel. Le Monde s'est récemment demandé si les réseaux sociaux étaient encore des lieux de conversation. S'ils n'étaient pas plutôt devenus des plateformes de divertissement, des plateformes où cohabitent publicité, robots et maintenant intelligence artificielle reléguant les rapports humains à l'arrière-plan. Ou du moins, c'est l'impression qu'ont certains. Oscar Lallier avait 11 ans quand il s'est créé un profil sur Facebook. Depuis, la plateforme a tellement changé qu'elle n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle était au départ, remarque-t-il. « Il n'y a plus rien d'intéressant sur Facebook », résume l'étudiant en architecture. Les photos d'amis en randonnée ont laissé place à des pages commanditées ou suggérées par les algorithmes qui repartagent un flux sans fin d'images et de vidéos sans lien apparent entre elles. Et depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est pire. Le rapport au faux et au vrai en ligne est détruit. On a perdu le contrôle, déplore Oscar. Selon Fenwick McKelvey, professeur associé au département de communication de l'Université Concordia, l'expression « réseaux sociaux » n'est pas appropriée. Elle ne l'a même jamais été. « Ce ne sont pas des entreprises de réseaux sociaux, dit-il, ce sont des entreprises de publicité et leur modèle commercial principal est la publicité. C'est là qu'elles ont été innovantes. » Dans les dernières années, Meta a procédé à plusieurs changements qui ont considérablement modifié l'expérience sur Facebook et Instagram. Le plus notable, l'entreprise a mis davantage de l'avant le contenu suggéré, c'est-à-dire du contenu auquel l'utilisateur n'est pas abonné. Environ 30 % des publications sur le fil d'actualité de Facebook sont désormais diffusées selon des algorithmes de recommandation, un chiffre qui a doublé dans les dernières années. Sur Instagram, c'est plus de 50 %. Le social est utilisé pour nous ramener là-dessus en nous disant « Tes amis sont là, viens-t'en. » Mais dans le fond, tu ne vois plus ce que tes amis font, ce que ta famille fait, observe la chercheuse en communication numérique Nadia Serayoko. On n'est pas les seuls en ce moment à se demander « Est-ce que c'est encore à propos du social ?» Selon elle, l'arrivée de TikTok a accéléré cette transformation. L'application chinoise refuse d'ailleurs l'étiquette de réseau social. Elle se décrit avant tout comme une plateforme de divertissement. Avec sa croissance inégalée, TikTok est devenue la plateforme à battre et à copier. toutes les entreprises de réseaux sociaux essaient de rattraper TikTok, observe-t-elle. Comment? En favorisant les vidéos de courte durée, Reels sur Instagram, Shorts sur YouTube, etc., sélectionnées sur mesure par des algorithmes. Le but, lui, n'a pas changé. Afficher une croissance, plus d'utilisateurs, plus de temps passé sur les plateformes, pour vendre de la publicité. On sent de plus en plus que notre comportement est traqué, interprété, puis appareillé avec de la publicité, souligne Madame Nadia Serayoko. Je trouve que c'est ce qui enlève la magie du réseau social. Évidemment, il existe toujours des espaces de socialisation sur les réseaux sociaux. Les messageries privées comme Messenger sont très utilisées. Sur Facebook, les groupes de voisins ou encore de jeunes mamans ont la cote. D'où l'importance, justement, de protéger ces espaces de socialisation dont le sort repose actuellement sur une poignée d'entreprises toutes puissantes, souligne la chercheuse en médias sociaux Mélanie Millette. Jamais on ne permettrait à Ford et à Toyota de régir notre espace urbain. Ce sont des entreprises biaisées. C'est la même chose avec les entreprises de réseaux sociaux, dit la professeure titulaire au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Vous écoutez « Des réseaux devenus asociaux », un dossier de Léa Carrier, paru le 20 octobre 2024 dans la presse. L'Internet des zombies. Il y a quelques années, un utilisateur a déploré dans une publication devenue virale, sur un forum en ligne, que l'activité humaine était devenue marginale dans le monde numérique. Son pamphlet a donné naissance à la « théorie de l'Internet mort » qui avance que la majorité du contenu sur le web est désormais généré par des robots. Ce n'est évidemment pas le cas. Près de 5 milliards de personnes sont actives sur les réseaux sociaux, soit plus de 65 % de la population. Jamais autant d'humains n'ont été connectés sur ces plateformes. Pourtant, près de la moitié du trafic Internet était produite par des comptes automatisés en 2022, selon un rapport de la Société américaine de cybersécurité Imperva. Certains éléments de la théorie commencent à prendre vie, observe le journaliste américain spécialisé en culture du web et en télévision, Danny Di Placido. C'est un peu comme une prophétie qui se réalise. Aujourd'hui, certains se demandent même si l'arrivée de l'intelligence artificielle finira par couler les réseaux sociaux. Dans un récent article, le cofondateur du média spécialisé en technologie 404, Jason Kubler, décrit Facebook comme une chambre des horreurs déprimantes remplie de contenu viral généré par intelligence artificielle qui semble empirer de jour en jour. Auteur et chercheuse américaine spécialisée en médias sociaux et en désinformation, René Di Resta a étudié le phénomène. Co-signé par Josh A. Goldstein de l'Université Stanford, son étude révèle comment des pages Facebook utilisent de fausses images créées par intelligence artificielle pour générer de l'engagement en ligne et engendrer des revenus publicitaires. L'étude démontre aussi qu'une partie des utilisateurs qui interagissent avec ces images ne réalisent pas qu'elles sont fausses et que Facebook semble favoriser ce genre de contenu sur sa plateforme. Tant que Facebook en fera une opération rentable et facile pour elle, ses pages continueront à le faire, selon René Di Resta. Grâce à une enquête similaire, Jason Kubler a découvert que les comptes interagissant avec les images créées par intelligence artificielle sont souvent eux-mêmes gérés par des robots. Nombre de ces comptes appartenaient même à de vrais humains avant d'être piratés. Jason Kubler souligne « Facebook est l'Internet des zombies, où un mélange de robots, d'humains et de contes qui ont été humains mais ne le sont plus, interagissent pour former un site web désastreux où il n'y a que très peu de liens sociaux. L'abondance de faux contenus sur les grandes plateformes pourrait-elle repousser les utilisateurs, déjà nombreux à trouver qu'elles grugent trop de leur temps? Dany Di Placido le pense. Ces entreprises sont en train de signer leur propre arrêt de mort. Il y a un moment où ça ne vaudra plus la peine d'être sur ces plateformes. L'expérience qui a mal tourné. On est devant une expérience communicationnelle qui tourne mal, laisse tomber Nadia Serayoko. Selon elle, les rapports humains sur les réseaux sociaux ne diminuent pas seulement en nombre, ils diminuent aussi en qualité. Et pas seulement parce qu'ils sont insignifiants, mais parce qu'ils encouragent des comportements asociaux. Le terme « rage bait », par exemple, est de plus en plus populaire. Semblable au « clickbait », la technique s'en différencie légèrement en ce qu'elle vise à susciter la colère plutôt que la curiosité pour attirer les clics. Nadia Serayoko affirme « Si tu veux attirer des utilisateurs, crée une chicane. » L'impact des réseaux sociaux et plus largement des écrans sur la socialisation des enfants commence aussi à être mesuré. TikTok connaît les impacts négatifs. TikTok est au courant du fait que sa plateforme entraîne des impacts négatifs sur les jeunes utilisateurs, mais fait peu pour les limiter. C'est ce que révèlent des documents internes récemment obtenus par la radio publique américaine du Kentucky. L'utilisation compulsive de TikTok est liée à une série d'effets négatifs sur la santé mentale, comme la perte de la capacité d'analyse, et pénalise aussi la formation de la mémoire, l'aptitude à la contextualisation, à la conversation, à l'empathie, ont conclu des chercheurs au sein de l'entreprise. Un mémoire de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, récemment présenté à la commission spéciale qui étudie les effets des écrans sur la santé et le bien-être des jeunes, a rapporté que les élèves québécois ont de la difficulté à écrire, à s'exprimer et à socialiser. Comme plusieurs experts, Nadia Serayoko presse les gouvernements de légiférer contre les géants du web. Je ne peux pas croire que ça n'a pas des impacts sur nos relations sociales en dehors des réseaux. Quand c'est rendu qu'on suscite notre colère pour nous vendre des gugus sur Amazon, on devrait vraiment se poser des questions, plaide-t-elle. Je pense qu'il y aurait une petite révolte à mener. C'était « Des réseaux devenus asociaux », un dossier de Léa Carrier paru le 20 octobre 2024, dans la presse.
Des castors pour protéger la biodiversité. Un texte d'Ariane Kroll, paru le 30 septembre 2024 dans la presse. Les barrages de castors retiennent l'eau, maintiennent des milieux humides propices à la faune et à la flore, et même freine des incendies de forêt. Aux États-Unis, comme au Canada, des organisations gouvernementales et environnementales commencent à les utiliser pour lutter contre les effets des changements climatiques. Quand vous étudiez les castors, vous réalisez que ce qu'ils font protège des habitats et d'autres espèces des changements climatiques. Et ils le font sans qu'on le leur demande. Ça donne espoir. Souligne Emily Fairfax, professeure de géographie à l'Université du Minnesota. L'activité des castors contribue à recharger les nappes phréatiques, à élargir les plaines inondables, à conserver l'eau durant les périodes de sécheresse et à restaurer les paysages fluviaux, ont confirmé plusieurs études au fil des ans. Leurs barrages peuvent même limiter les dégâts lors des méga-feux, ces incendies de forêt extrêmes qui s'étendent sur plus de 100 000 acres, presque 405 km carrés, montre une recherche publiée en début d'année. Dans cette étude, dont Mme Fairfax est l'auteur principal, les chercheurs ont utilisé des images satellites pour mesurer les zones dévastées par trois mégafeux qui ont fait rage au Colorado et au Wyoming en 2020 et y repérer plus de 1500 barrages de castors. Les paysages fluviaux modifiés par les castors ont davantage résisté à la combustion que les paysages fluviaux sans barrages de castors et que les zones non riveraines, conclut l'étude. Et cette résistance pourrait profiter au milieu bien après l'incendie, suggèrent les auteurs. Pour avoir des animaux et des arbres matures, capables de se reproduire et d'aider au rétablissement après l'incendie, il est important de préserver des zones de l'écosystème telles qu'il était avant le feu. Les milieux humides des castors sont très bons pour fournir ce genre d'habitat, explique Mme Fairfax. Retour du rongeur. Plusieurs États de l'Ouest américain, frappés par la sécheresse et les incendies de forêt, dont la Californie, l'Oregon, l'État de Washington et le Wyoming, ont commencé à miser sur le castor pour restaurer des habitats. L'Agence fédérale de la faune, U.S. Fish and Wildlife Service, a même publié un guide pratique pour ceux qui veulent travailler avec le castor afin de restaurer les cours d'eau, les milieux humides et les plaines inondables. Dans plusieurs endroits, on ramène des castors dans des habitats où ils avaient disparu. En Californie, une famille de 7 castors a été relâchée en juin dernier sur le territoire de la réserve autochtone Tool River, un partenariat entre l'État et la Tool River Tribe. Les Autochtones espèrent améliorer la rétention d'eau dans ce secteur aride. D'autres projets tentent d'attirer des castors avec la plantation de saules et de trembles ou l'installation d'imitations de barrages, Beaver Dam Analogues ou BDA. Au Canada, la BC Wildlife Federation prévoit d'installer 100 barrages factices dans la province pour créer et restaurer quelque 10 000 milieux humides. Et dans certains endroits, vous n'avez pas besoin de ramener des castors. Il faut juste arrêter de tuer ceux qui sont là, note Mme Fairfax. Elle comprend toutefois les propriétaires réticents à l'idée de laisser les castors s'installer sur leurs terres par crainte de dégâts. Si on veut utiliser les castors comme solution au changement climatique, il faut prévoir de l'argent et du soutien pour les gens, pour protéger leurs arbres ou installer des niveleurs d'étang afin de limiter les inondations. Vous ne pouvez pas seulement planter un castor dans un habitat sans vérifier si c'est un bon endroit pour lui, précise cependant Sherry Westbrook, éco-hydrologue à l'Université de la Saskatchewan. Aura-t-il assez à manger? Et pour combien de temps? Quels prédateurs sont présents? Selon certaines études, les castors de 2 à 3 ans sont les plus aptes à être déplacés. Pas de restauration dans l'Est du Canada. Si les castors ont gagné en popularité dans l'Ouest américain, seulement une poignée de chercheurs se spécialise dans cet animal au Canada et il n'y a pas de projet de restauration dans l'est du pays, dit la professeure Westbrook. Pourtant, même dans des zones humides et marécageuses, comme on en retrouve en Ontario ou au Québec, les barrages de castors peuvent faire une différence, suggèrent des données préliminaires de Mme Fairfax. Son équipe a analysé les images satellites de diverses régions ravagées par des incendies de forêt, dont deux secteurs de l'Ontario. Même dans ces endroits relativement humides, les zones aménagées par les castors brûlent moins gravement que les environs, ont constaté les chercheurs. Les castors ne sont pas les seuls à aider la nature, souligne Mme Fairfax. Les terriers des chiens de prairie font entrer l'eau et la chaleur dans le sol, favorisant la recharge de l'aquifère et la croissance de la végétation. Les bisons créent des dépressions qui retiennent les eaux pluviales. Dans l'Arctique, les terriers de renards créent des repères de biodiversité, car les carcasses qu'ils y amènent servent d'engrais à des plantes qui fournissent un habitat à diverses espèces. Ils font tous partie de cette catégorie d'animaux qu'on appelle les ingénieurs écologiques. Et c'est réjouissant de voir qu'on leur donne enfin un peu de crédit pour tout le boulot qu'ils font. S'enthousiasme, Mme Fairfax. C'était Des castors pour protéger la biodiversité. Un texte d'Ariane Kroll, paru le 30 septembre 2024 dans La Presse.
Des champignons que vous voulez dans vos murs. Un texte de Kamira Etkassiali, paru le 7 octobre 2024 dans La Presse. Produire des matériaux de construction à base de vieux linges et de champignons. C'est le défi que s'apprête à relever une petite friperie du Kamouraska pour réduire le nombre de vêtements qu'elle envoie au dépotoir chaque semaine. L'instigatrice du projet, Élodie Fortin, de l'Atelier du partage, s'est donné la mission en 2023 de trouver une solution au gaspillage textile. On a calculé qu'à peu près 62% des vêtements qu'on reçoit retournent au vidange, dit-elle. Au début, on est allé voir les entreprises et les écoles du coin pour leur proposer nos retailles au lieu qu'elles achètent de nouveaux produits de bricolage, raconte-t-elle. C'était infime. On a réussi à revitaliser seulement 4% de nos déchets textiles. Sans se décourager, Mme Fortin a commencé à s'informer sur les micromatériaux. Un matériau composite qu'on obtient en combinant une ou plusieurs souches de champignons à toutes sortes de matières premières. Je voulais savoir, dit-elle, s'il était possible de trouver une combinaison de champignons capable de traiter n'importe quel textile. Mission accomplie. En partenariat avec le Centre collégial de transfert technologique Bioptère, l'atelier du partage de Saint-Pascal est parvenu l'hiver dernier à fabriquer et vendre des boules de Noël entièrement faites de laine, de coton, de cuir et de mycélium, une masse de filaments qui sert de racines aux champignons. Ça a super bien marché, soulignait Lodi Fortin. Les gens étaient curieux et voulaient s'en procurer. Depuis quelques années, la quête pour trouver des matériaux renouvelables pouvant remplacer l'industrie pétrochimique fait croître l'intérêt pour ces matériaux organiques. Étant biodégradables et fabriqués à partir de ressources renouvelables, ils s'érigent en solution de rechange écologique et durable au plastique à usage unique. En juin 2024, l'initiative a été récompensée par l'organisme Économie sociale du Bas-Saint-Laurent. L'atelier du partage a remporté le deuxième prix éco-responsabilité de 2024, ainsi qu'une bourse de 3 000 $. Micro-matériaux. La PME s'attaque maintenant à la prochaine étape de son projet. La production de panneaux insonorisants à base de mycomatériaux. Lorsqu'on inocule une souche de champignons à du textile ou à des copeaux de bois et qu'on laisse le tout incuber d'une à deux semaines, on obtient une pâte qu'on peut mouler dans la forme désirée. Pour les premiers tests, nous avons essayé de mouler des sphères. Il faut attendre environ un mois pour que la substance obtenue se durcisse et à la fin du processus, on obtient des boules dont la texture ressemble à celle du liège, explique Élodie Fortin. Les personnes dotées d'un effin n'ont pas à craindre les odeurs pouvant se dégager des mycomatériaux. Ça ne sent pas le moisi ou l'humidité, même si des champignons sont impliqués dans le procédé, précise Marie-Lie Tifot, technicienne de laboratoire chez Bioptère, qui participe à la recherche sur le projet de Mme Fortin. Le matériau prend l'odeur de la matière qu'on choisit d'incuber. Dans ce cas-ci, puisqu'on parle des vêtements, ça ne sent rien. Certains entrepreneurs audacieux, comme Élodie Fortin, souhaite tirer avantage des propriétés isolantes du matériau pour révolutionner l'industrie de la construction. Je n'ai pas envie de remplacer une gogosse en plastique par une gogosse en mycomatériaux. Le but, c'est de fabriquer un objet utile avec les vieux morceaux de linge, explique Mme Fortin, qui a sondé les résidents et les commerçants de la MRC de Kamouraska pour connaître leurs besoins. Là, on s'enligne pour faire des panneaux insonorisants. Il y a beaucoup de salles municipales qui sont mal insonorisées dans le coin, et c'est une option qui nous permet de passer beaucoup de tissus, affirme la commerçante engagée. À l'heure actuelle, l'équipe de recherche de Bioptère fait des essais pour déterminer la grandeur et l'épaisseur optimale des panneaux. Les défis à surmonter sont nombreux, selon la technicienne de laboratoire Marie-Lie Tifot. On est dans les balbutiements des mycomatériaux, signale-t-elle. À l'heure actuelle, les infrastructures ne permettent pas encore de rendre les mycomatériaux viables à l'échelle industrielle, affirme Mme Tifot. Selon elle, il faudrait trouver une manière d'automatiser l'étape du moulage qu'on fait à la main pour réduire les coûts de production. C'est pour ça que c'est important de poursuivre la recherche, parce que si on s'arrête aux problématiques actuelles, on n'innove pas, conclut-elle. C'était Des champignons que vous voulez dans vos murs, un texte de Camira et Cassiali, paru le 7 octobre 2024 dans la presse.